Les séminaires du Collège de France.
Tout d'abord, bonjour à tous. Merci Marc pour ton invitation à discuter d'un sujet effectivement essentiel, transition énergétique. Merci aussi pour donc cette première heure d'introduction qui correspond tout à fait à l'esprit de ce que je vais vous présenter. Donc effectivement, l'industrie chimique était très consommatrice d'énergie, pas forcément donc énergie électrique effectivement. Et d'ailleurs, pour construire eh bien, tous les polymères, matériaux, médicaments, comme tu l'as rappelé, mais il est nécessaire d'apporter de l'énergie chimique, pour la construction donc, de ces molécules complexes qui sont nécessaires à notre bien-être et à notre santé. La nature le fait tout aussi bien d'ailleurs, mais utilise classiquement des enzymes pour apporter l'énergie nécessaire à ces transformations chimiques. En chimie de synthèse, eh bien, très souvent, on est amené à utiliser des métaux, voire d'une façon plus générale, des minéraux. Ils viennent classiquement de l'extraction minière, avec tout l'impact environnemental qu'on connaît à cette extraction minière et à sa transformation métallurgique. Et autre problème, eh bien, ces minéraux d'origine minière ne sont pas renouvelables et certains sont déjà dans une situation critique en termes de raréfaction mondiale. Donc comment proposer des solutions face à ce scénario assez préoccupant, eh bien, effectivement, c'est d'aller chercher ces minéraux, ces éléments métalliques dans la biomasse. C'est inhabituel comme raisonnement, puisque, comme tu l'as montré, souvent, la biomasse est considérée comme une richesse en matière carbonée. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que, finalement, c'est une ressource insoupçonnée donc, en éléments minéraux et métalliques dont a tant besoin l'industrie chimique. Alors, l'idée peut paraître ambitieuse, mais elle a la volonté de s'inscrire dans une autre transition que la transition énergétique, c'est également la transition écologique, à savoir essayer de concevoir la ressource biomasse comme une matière première minérale possible, mais pas n'importe comment, en essayant de la concevoir sur le long terme, c'est-à-dire en s'intéressant aux grands problèmes écologiques que nous connaissons aujourd'hui et en essayant d'y répondre aussi. Alors pour ça, eh bien, je vous invite à rejoindre les conclusions d'une autre COP, pas la COP 28, mais la COP 15 biodiversité, qui s'est réunie eh bien, il y a un petit peu plus d'un an à Montréal, qui réunissait environ 200 pays qui ont réfléchi conjointement aux gros problèmes actuels et en particulier à ce qui impacte fortement la biodiversité. Et à ce titre, eh bien, 5 facteurs clés ont été déclarés comme étant responsables directement du déclin de la biodiversité. Il s'agit de choses qui sont parfois connues, telles que l'usage des terres et des milieux aquatiques que l'on conçoit aujourd'hui, notamment donc, par exemple la déforestation, pour des raisons diverses. Des choses très connues comme le réchauffement climatique, inutile de s'étendre sur le sujet, il est clairement admis, même par les plus sceptiques. La surexploitation des ressources naturelles, qu'elles soient végétales ou animales. D'ailleurs, un récent rapport de l'IPBES, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, le rappelle dans un rapport qui est vraiment alarmant. On y reviendra. Et puis, 2 autres scénarios tout aussi importants. La pollution, à prendre au sens large du terme, pollution des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air. Et enfin, un dernier problème, moins connu, mais pourtant très important, celui du développement incontrôlé d'espèces envahissantes, qu'elles soient végétales ou animales. Vous en voyez une photo ici, un exemple, développement d'espèces aquatiques exotiques, donc sur un contre-canal du Rhône qui est en train d'étouffer complètement la vie aquatique. Donc évidemment une pression énorme sur la biodiversité, la catastrophe écologique est très claire, mais elle est tout aussi économique, puisqu'on considère aujourd'hui que le développement de ces espèces envahissantes coûte chaque année 400 milliards de dollars à l'économie mondiale. Coût aussi élevé que les catastrophes naturelles dont on parle beaucoup en ce moment. Scénario dans l'avenir encore plus préoccupant, puisque ces coûts augmentent d'un facteur 4 tous les 10 ans. Où va-t-on ? Donc voilà des problèmes essentiels qui s'inscrivent également dans la démarche que je vais vous proposer. D'ailleurs, mes propos vont s'inscrire dans la volonté de résoudre ces 2 derniers problèmes environnementaux, pollution des sols et de l'eau. Il y a effectivement un continuum de pollution entre les deux. Comment s'intéresser à l'un et pas à l'autre? Les deux sont étroitement liés. Et puis, au développement des espèces exotiques envahissantes. Compte tenu du sujet thématique qui nous intéresse ce matin, je limiterai mon propos donc à la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes. Alors, comment cumuler la résolution de ces problèmes avec la production donc de ressources métalliques à partir de la biomasse? Eh bien, ces défis peuvent être relevés en s'appuyant sur une démarche en deux étapes. Tout d'abord, essayer de développer des solutions basées sur la nature, fondées sur la nature, comme on le dit aujourd'hui, qui s'inscrivent vraiment sur l'exploitation d'une particularité des ressources végétales. Effectivement, les plantes sont dans une situation très particulière. Contraintes à l'immobilisme, pour s'adapter au stress auquel on les soumet, elles doivent développer des stratégies d'adaptation tout à fait remarquables, très inspirantes, qui vont être à l'origine des solutions que je vais vous proposer. Mais si ces solutions naturelles peuvent être extrêmement performantes, j'espère vous en convaincre tout à l'heure, eh bien il faut qu'elles soient durables. Et pour ça, il faut tout simplement qu'elles soient économiquement viables, et c'est là qu'entre très clairement la valorisation de la biomasse qui est absolument nécessaire pour soutenir les efforts écologiques initiaux. Ben finalement, cette démarche en deux étapes relève tout simplement de la stratégie d'une grosse ONG de la biodiversité que vous connaissez certainement, l'IUCN, mais aussi tout simplement la stratégie nationale de la biodiversité de la France à l'horizon 2030. Je vais donc vous montrer c'est une démarche en deux étapes à travers les deux problématiques que je vous ai exposées, la pollution et le développement des espèces envahissantes. On va tout d'abord s'intéresser au gros problème de la pollution des sols. Pollution très étendue qui est due aux activités humaines au sens large, activités industrielles telles que les activités minières, activités agricoles ou tout simplement activités domestiques qui occasionnent donc une pollution des sols par ces métaux dont on sait ne sont pas biodégradables, persistants, et si on n'intervient pas, ils restent présents et occasionnent une forte décomposition, décroissance et régression de la biodiversité des sols. Comment s'adapte la nature à ce scénario de pollution métallique? C'est là où on voit la force de certaines espèces végétales. Quelques plantes réussissent à tolérer des concentrations énormes d'éléments métalliques dans le sol. Elles arrivent à survivre dans des scénarios absolument extraordinaires. Et parmi elles, certaines plantes font encore mieux que tolérer la pollution. Elles sont tout à fait capables de l'extraire par leur système racinaire, via des réactions chimiques absolument fabuleuses, de les transporter par des transporteurs très spécifiques et d'aller mettre ces métaux à l'abri dans les vacuoles des cellules végétales, comme pour mieux s'en protéger. C'est un phénomène naturel d'adaptation des plantes à la pollution métallique. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction, extraction des métaux par les plantes. Alors évidemment, ça ne concerne que quelques plantes assez extraordinaires, spécifiques, mais qui ont un potentiel de concentration des aimants métalliques énorme. Nous avons découvert un petit peu par hasard d'ailleurs l'existence de certaines de ces plantes dans le sud de la France. On a essayé de mieux les connaître pour les développer de façon intense et proposer un programme de restauration des sols pollués. C'est comme ça que l'histoire a commencé et ceci donc, a été possible. Et nous avons réussi à montrer la faisabilité de la technique de phytoextraction à grande échelle dans le sud de la France. Puis ça nous a amené à montrer la faisabilité de la technique dans d'autres contextes, en Europe, notamment en Crète, en Chine, évidemment, il y a beaucoup à faire, en Afrique aussi, notamment au Gabon, où il y a des extractions minières de manganèse très importantes, et puis un endroit sur lequel je reviendrai beaucoup, la Nouvelle-Calédonie, qui est un scénario extraordinaire, une richesse inouïe en ces espèces capables de faire de la phytoextraction. Donc, ceci a été possible. Ces plantes s'adaptent, extraient les métaux et permettent de réintroduire une végétation durable qui va servir de couvert végétal sur des sols très pollués où il n'y avait plus aucune végétation et ainsi limiter l'érosion éolienne des particules métalliques qui sont une source de contamination de l'environnement mais aussi de problèmes sanitaires avérés, bien identifiés, comme par exemple des cas de saturnisme. Donc ça, c'est la première étape qui est la partie solution fondée sur la nature. Simplement, vous l'imaginez, pour développer des plantes sur des sols contaminés, il faut prendre son temps, il faut respecter le rythme de la nature. Tout ça coûte cher. Comment soutenir ces efforts donc de restauration de sites pollués? C'est là où la valorisation de la biomasse est essentielle. C'est là où elle va pouvoir soutenir ces efforts de restauration écologique. Alors, comment valoriser de telles plantes qui séquestrent les métaux dans leur partie aérienne? Bien, l'idée est d'être cohérent avec l'effort initial de dépollution, à savoir la valorisation de la biomasse doit ne pas impacter l'environnement, sinon ça n'a pas de sens. Donc, comment réfléchir à une valorisation de la biomasse qui pourrait être éco-responsable, qui pourrait maîtriser son empreinte environnementale? Bien, l'idée a été de considérer en fait que ces plantes sont des réservoirs naturels de métaux pour faire la catalyse chimique et bien remplacer les métaux qui viennent d'origine minière. Alors bien sûr, ne pas utiliser des plantes chargées en métaux dans des opérations métallurgiques, ça n'a effectivement complètement incohérent avec la volonté de dépolluer. Ça a été bien d'utiliser ces métaux confinés dans la biomasse, dans ces plantes, donc sous forme de ce qu'on a appelé des éco-catalyseurs, pour bien rappeler que ces catalyseurs viennent des plantes et ne viennent pas d'origine minière, et de montrer qu'ils pouvaient rivaliser avec les catalyseurs d'origine minière pour construire des molécules à haute valeur ajoutée. Alors, je vais vous montrer donc assez rapidement, parce qu'il y aura bien d'autres choses à voir encore, comment ces efforts de restauration des sols ont permis de nourrir une nouvelle chimie qui va être possible grâce à l'énergie apportée par ces éco-catalyseurs. Donc, voyons les deux étapes. Tout d'abord, à travers l'exemple qui me semble le plus démonstratif, celui de la Nouvelle-Calédonie, où il y a le double problème. La Nouvelle-Calédonie, c'est tout d'abord un territoire magnifique dans le Pacifique Sud. Quand on arrive sur le territoire en avion, la première chose qui surprend, c'est ce lagon magnifique, un des plus grands au monde, un des plus beaux aussi, qui a d'ailleurs été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi une biodiversité végétale absolument inouïe. Vous connaissez peut-être sa mangrove avec le cœur de veau, photo prise par Yann Arthus-Bertrand, qui a circulé dans le monde entier, qui est tout aussi magnifique et qui reflète quelque chose que l'on connaît, à savoir que la Nouvelle-Calédonie abrite un taux d'endémisme absolument extraordinaire. Plus de 74% des espèces végétales présentes sur ce territoire, en fait, son propre territoire calédonien, ne les trouve nulle part ailleurs. Et parmi ces curiosités végétales, existe notamment ce qu'on appelle l'arbre à la sève bleue, ou Pycnandra cuminata pour les botanistes, si vous l'êtes parmi vous. Alors, quelle est la particularité de cet arbre? Vous avez peut-être reconnu la couleur de sa sève, ici couleur bleue, qui traduit un scénario existant sur le territoire calédonien. C'est que l'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie a introduit des quantités de nickel très importantes dans le sol. Le nickel est toxique pour nous, il est CMR, mais il est aussi pour les plantes. Et il y a un nombre d'espèces végétales importantes en Nouvelle-Calédonie qui s'est adapté à la présence de ce nickel dans le sol et qui fait la phytoextraction que j'expliquais tout à l'heure. Cet arbre en fait partie. Il extrait le nickel du sol, le transporte dans la sève jusqu'à 20%, une véritable folie végétale, cette couleur bleue, celle de nickel, pour aller le stocker dans ses parties aériennes. Vous reconnaissez cette couleur bleue de la sève, tout à fait analogue au minerai nickel de la Nouvelle-Calédonie, qui est un des plus grands producteurs mondiaux de nickel. Le nickel qui a été indispensable pour produire les revêtements inoxydables sur les espèces métalliques et qui, dans le futur, va être tout aussi important pour les batteries de nos véhicules électriques. Cette ressource de nickel, c'est une merveille d'adaptation des espèces végétales, comme cet arbre à la sève bleue, mais c'est bien évidemment aussi autre chose, l'extraction minière du nickel. Vous voyez un exemple d'une usine d'extraction de ce minerai en plein nord de la Nouvelle-Calédonie, ultra moderne, qui est installée, vous le voyez là, juste à côté du lagon, dont je décrivais la beauté tout à l'heure. Pour des raisons logistiques faciles à comprendre, le minerai est ainsi facilement exporté vers les pays asiatiques les plus proches pour exploiter ce minerai. Bon, bien sûr, ça expose directement le lagon à une pollution nickel qui est avérée, qui exerce une menace supplémentaire sur le récif corallien qui est déjà largement fragilisé par le réchauffement climatique. L'extraction du nickel, c'est aussi des mines à ciel ouvert. Il faut aller creuser en profondeur le sol pour récupérer ce nickel. On considère que le minerai de Nouvelle-Calédonie est un des plus riches en nickel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 1,2 à 1,4% de nickel dans le minerai. C'est-à-dire qu'on accepte d'entrer, on va générer à peu près 99% de déchets. C'est quand même ce qu'on accepte d'entrer. Bien, ceci va occasionner des quantités importantes, bien sûr, de déchets dont on ne sait que faire. Mais pas que. quand on a extrait donc ce minerai, eh bien le sol est tellement dégradé qu'aucune végétation n'arrive à reprendre. Or, on est dans le Pacifique Sud, soumis à des orages tropicaux violents, voire à des cyclones à répétition. Plus de végétation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pleut, les sols sont lessivés, les métaux qui sont présents donc sont dissous, entraînés dans les rivières, et ces métaux se retrouvent dans les lagons. Autre conséquence directe, qui arrive malheureusement assez souvent, les villages qui sont installés à proximité de ces sites miniers, qui sont dévégétalisés, souffrent de ce lessivage des sols qui peut aller très loin, et dans ce village en particulier, où les habitations avaient été emportées lors d'un cyclone il n'y a pas si longtemps. Donc un drame local, et pourtant, paradoxalement, le territoire calédonien vit de la production, de l'extraction de ce minerai. Donc un contexte difficile auquel on s'est intéressé, où il nous semblait vraiment, vraiment utile d'étudier la possibilité de revégétaliser ces sols à l'aide de ces plantes qui sont capables de survivre sur des sols donc très dégradés, où il y a une forte concentration métallique. C'est ce qui a été fait en s'intéressant à des arbres qui fonctionnent comme l'arbre à la sève bleue. Alors, pas en utilisant celui-ci, parce qu'il est quand même très fragile, très particulier, et il n'arrive pas à survivre sur des sites dégradés tels que les sites miniers. Mais en allant choisir sur le territoire des espèces qui hyperaccumulent le nickel, comme celui-ci, ou le manganèse, un véritable paradoxe sur cette terre du nickel, où des plantes arrivent à confiner le manganèse à plus d'1% dans les parties aériennes, donc plus que dans le minerai. Donc, qui permettent, qui résistent en fait à ces conditions de haute dégradation. Alors, bien sûr, je passe sous silence tous les efforts écologiques qui doivent être fournis pour bien comprendre la particularité de ces espèces végétales, façon à les introduire sur ces sites dégradés pour qu'ils résistent et qu'elles se développent à l'âge adulte. Il faut savoir que ce sera des arbres qui feront environ 10 mètres d'envergure. Donc, les efforts de restauration minière ont été réalisés sur l'ensemble du territoire. Quelque chose qui est très important localement, un petit peu comme en Corse, vous savez, il faut faire attention à l'équilibre des activités que l'on développe, avec le support logistique des opérateurs miniers français qui ont joué le jeu pour participer à ces efforts de restauration de leur site juste après exploitation. Alors, comme je vous le disais, la phytoextraction, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes pour réussir. Bon, tout d'abord, un premier obstacle, c'est l'altitude. La plupart des sites miniers sont installés en altitude, ce qui est déjà rédhibitoire pour beaucoup d'espèces végétales. Deuxième problème, c'est comme le climat, parce que ce n'est pas si simple d'avoir une alternance, en gros, de 6 mois de zone humide, avec ces orages violents qui ont tout lessivé et emporté nos jeunes plants, et puis 6 mois de sécheresse. D'ailleurs, en ce moment, sur la partie nord de la Nouvelle-Calédonie, c'est malheureusement plus que 6 mois, conditions rudes. Et il va pourtant falloir que les espèces végétales qu'on introduit survivent. Mais le pire, c'est quand bien la composition du sol. Un lot de métaux toxiques redoutables pour les plantes, tant que pour nous, nickel, manganèse, fer, chrome, cobalt. Et un défaut avéré de tout ce qu'il faudrait pour que ces plantes puissent survivre. Très peu de phosphore, calcium, potassium, sodium, azote, sucre, etc. Donc des difficultés notables et pourtant qu'il faut lever pour s'inscrire dans un programme dit de restauration écologique, qui est très cadré, qui a été défini par un chercheur du CNRS d'ailleurs, dont l'objectif ultime n'est pas de revégétaliser bêtement un site minier, mais c'est de réintroduire progressivement des espèces pour retrouver le scénario initial ou s'en approcher avant dégradation minière. Donc ceci est très planifié, se fait dans la durée. On installe tout d'abord des espèces végétales pionnières, donc ces espèces qui hyperaccumulent soit le manganèse, soit le nickel, puis des légumineuses qui vont tolérer ces conditions de sol, mais qui vont pouvoir réintroduire de l'azote de façon naturelle dans le sol. Et ces espèces premières vont servir de niche écologique pour introduire des espèces plus fragiles et augmenter la biodiversité locale. Donc tout ceci est planifié sur des années où on va suivre donc l'évolution de ces plantes. Donc oui, il faut absolument les valoriser. Alors à quoi servent les métaux qui sont issus de ces plantes qui accumulent soit le nickel, soit le manganèse, soit le zinc, soit accessoirement le cuivre, ces hyperaccumulateurs terrestres utilisés en restauration minière? Tout d'abord, ils ont été revisités, utilisés dans des conditions de la chimie qui a besoin d'une catalyse dite acide. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à en faire? Ne vous affolez pas derrière les structures chimiques. Je vais vous expliquer l'intérêt Eh bien, ces éco-catalyseurs, donc ces métaux d'origine végétale, nous ont permis de construire des molécules qui sont des agents anticancéreux, effectivement, qui bloquent la mitose, la reproduction cellulaire, donc très utile face aux cellules cancéreuses qui ont un développement anarchique. Ils ont permis également de synthétiser les benzodiazépines, donc ces anxiolytiques qui sont classiquement utilisés comme médicaments. Ils ont également été utilisés pour faire des cannabinoïdes, donc molécules naturelles aux vertus apaisantes, des insecticides naturels, très inspirants parce qu'ils sont hyper sélectifs, et c'est une source d'insecticide qui peut donc limiter sa toxicité, son écotoxicité. Des molécules plateformes qui vont permettre d'en faire plein d'autres uniquement à l'aide de la biomasse. Et puis surtout, une grosse application ici, vous voyez peut-être la complexité de la molécule, ce qu'on appelle des ARN coiffés, un sujet d'actualité. Ce sont des molécules indispensables pour construire les ARN messagers, si utiles, dans les vaccins actuels. Donc voilà la force finalement de ces catalyseurs métalliques qui sont imposés comme des substituts très compétitifs aux catalyseurs métalliques d'origine classique. Mais pas que, ils ont permis également de revisiter une grosse transformation de la réaction chimique, des réactions de réduction. Et ce qui a été intéressant et qui nous arrive tout le temps, c'est que ces biomasses, par exemple cet hyperaccumulateur de nickel, a généré un catalyseur qu'on ne connaît absolument pas en chimie. Et ça nous arrive tout le temps. C'est-à-dire que le métal phyto-extrait par la plante va s'associer aux éléments minéraux de la plante et générer des sels nouveaux, des complexes, des catalyseurs nouveaux en chimie dont il y a tout à découvrir, en particulier le potentiel. Et bien ici, ces agents réducteurs nous ont permis de préparer des intermédiaires importants pour la chimie pharmaceutique. Autre sujet dont je vais détailler un petit peu plus l'enjeu, les réactions d'oxydation. Alors pourquoi ? Parce que les réactions d'oxydation sont incontournables en chimie de synthèse. Les réactifs et les catalyseurs oxydants sont nombreux, mais ils ont quand même souvent un défaut. Ils sont toxiques, écotoxiques. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont réglementés par la réglementation REACH, la réglementation européenne de la chimie, à cause de leur dangerosité. On cherche des substituts, pas facile à trouver. Eh bien, nous avons eu une chance. Souvenez-vous, nos hyperaccumulateurs de manganèse de Nouvelle-Calédonie fonctionnent d'une façon imprévue. Comment sont-ils capables d'extraire du manganèse et le stocker dans leurs feuilles ? On a essayé de l'étudier avec le très bel outil français, synchrotron soleil, pas si loin d'ici finalement, qui a permis de montrer que les plantes qui accumulent le manganèse sont très astucieuses. Elles utilisent les canaux calciques de la plante pour véhiculer le manganèse et le stocker. Ainsi, dans la plante, calcium et manganèse sont colocalisés sans arrêt, y compris dans les feuilles, vous voyez ici, en microfluorescence X, colocalisation calcium et manganèse. Ils sont associés dans la plante. Et bien, quand on génère l'éco-catalyseur, on les retrouve associés. On retrouve cette association inattendue des oxydes mixtes de calcium et de manganèse. Marc vous a rappelé tout à l'heure la photosynthèse, le photosystème 2, et en particulier une réaction importante, donc lors de la photosynthèse, c'est l'oxydation de l'eau en oxygène, qui est facilitée par quoi ? Bien précisément des oxydes mixtes de calcium et de manganèse. C'est comme ça que fonctionne le photosystème 2. C'est ce que la nature a choisi pour réaliser cette réaction d'oxydation qui est quand même énergivore. Nous avons trouvé ça très inspirant, nous avons fait confiance à ce système pour se dire peut-être que nos hyperaccumulateurs de manganèse, qui associent le calcium et le manganèse, vont pouvoir être des oxydants intéressants, comme le fait la photosynthèse. Effectivement, cette association manganèse-calcium nous a permis de revisiter toutes les grandes réactions d'oxydation de la chimie, des plus simples aux plus complexes, avec là un oxydant complètement inoffensif, comme celui que la nature développe dans les espèces végétales. Alors, à quoi servent ces recherches ? C'est une question qu'on se pose fréquemment. Est-ce que ça peut être utile à la société ? Est-ce que ça peut vraiment résoudre les gros problèmes que nous connaissons ? Clairement, oui. Pourquoi ? Ce gros travail de recherche qui a nécessité plus de 10 ans d'efforts sur le territoire calédonien est en train de déboucher aujourd'hui sur un très gros projet industriel sur le territoire qui est soumis à pas mal de difficultés, autant, géopolitiques qu'économiques. Aujourd'hui, avec donc les opérateurs miniers français, nous sommes en train de restaurer donc une surface très étendue, une centaine d'hectares, en fait, de sites miniers qui ont été dégradés par l'extraction du minerai, à l'aide de ces hyperaccumulateurs de manganèse, vous voyez en photo ici. Donc on installe par, après des, voilà, des protocoles d'écologie très serrés, dont on suit la croissance et qui vont nous permettre de produire des quantités massives de ces oxydants biomimétiques, donc qui sont composés de ces oxydes mixtes manganèse-calcium qui miment ces clusters du photosystème 2 pour mettre sur le marché ces oxydants biomimétiques si utiles en chimie organique. Alors oui, la valorisation de la biomasse qui permet de restaurer ces sites miniers peut être utile en chimie. Ça, c'était un petit peu le panorama valorisation de la biomasse qui vient de la restauration des sols. Mais quand on va sur un site minier, ce qui surprend tout de suite, c'est l'état de santé des rivières qui traversent ces sites miniers. L'eau est utile aux mineurs pour laver le minerai, le transformer. Et donc, les sols dénudés, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est facile à comprendre, impactent directement ces rivières qui sont très dégradées. Donc nous avons voulu essayer de développer la même stratégie pour dépolluer l'eau, les systèmes aquatiques, les effluents industriels pollués par ces éléments métalliques. Donc là, il a fallu trouver cette fois-ci des espèces végétales aquatiques pour traiter l'eau, selon le même principe. Les espèces aquatiques qui confinent les métaux fonctionnent tout à fait différemment des espèces terrestres. Ici, les métaux restent confinés dans les racines. C'est pourquoi on parle de rhizofiltration. Ils ne sont pas transférés dans les parties aériennes comme les plantes terrestres de tout à l'heure. Alors, on aura visité toute la littérature scientifique pour aller trouver les plantes aquatiques les plus performantes pour séquestrer un grand nombre d'éléments métalliques qui sont polluants dans l'eau, les confiner dans les racines. Avec la même réflexion, que va-t-on faire de ces plantes qui vont être gorgées de métaux dans le système racinaire? Est-ce que ça va être un nouveau déchet? Alors non, hors de question, il fallait trouver une utilité, une valorisation là encore de cette biomasse. Eh bien, on va voir que là encore, il a été possible de transformer ces racines gorgées de métaux en ces fameux éco-catalyseurs, des outils très utiles pour construire donc ces molécules organiques à haute valeur ajoutée dont on a besoin au quotidien. Alors, comment tout ça se passe? Eh bien, toujours la première partie. Ces plantes aquatiques, comment fonctionnent-elles? Vous voyez ici donc des plantes flottantes qu'il a fallu cultiver à grande échelle pour voir leur performance pour dépolluer un effluent industriel. Donc, je vous rappelle, tout est confiné dans les racines. Alors, on a été très vite surpris par les quantités astronomiques que ces plantes aquatiques flottantes étaient capables d'emmagasiner donc dans ce système racinaire. Donc, des concentrations absolument inouïes de métaux dans les racines. Et ça pose deux questions. Selon qu'on a une culture en écologie ou en chimie, on ne se pose pas tout à fait la même question, mais le résultat va être le même. En écologie, on se dit, mais pourquoi des plantes flottantes confinent autant de métaux? Pourquoi? Quand on y pense, des plantes flottantes, dont le système racinaire ne va pas aller chercher les nutriments dans le sol ou dans les berges ou au fond de la rivière, doivent survivre de façon très difficile, à savoir, vous voyez leur partie verte ici, très riche en chlorophylle, nécessite un grand besoin en magnésium pour construire cette chlorophylle. Il y en a peu dans l'eau. Le magnésium est très dilué. Eh bien, il faut que le système racinaire soit très performant pour capter la moindre trace de magnésium qui est présente dans l'eau. Alors, pour la plante, si vous dites magnésium, zinc, manganèse, cobalt, elle ne voit pas trop la différence. Elle aura la même efficacité pour séquestrer ces éléments métalliques. Ça, c'est le pourquoi. Le chimiste a une question un peu plus pragmatique. Mais comment fait-elle? Alors, comment? Eh bien, ça nous a beaucoup interpellés. Et la différence, je vous l'ai dit, avec les plantes terrestres, c'est que ça reste confiné dans les racines. Et on s'est rendu compte que finalement, la plante était assez passive devant la concentration des métaux dans le système racinaire. Elle n'y participait pas beaucoup. Elle a tout simplement un système racinaire bien fait. Et ça se comprend à l'échelle moléculaire, donc à l'échelle de la chimie. Elle possède des antennes moléculaires à la surface des racines qui séquestrent très vite les métaux de transition. Voilà l'explication. Donc ça se passe à une échelle toute petite, à l'échelle nanométrique. Eh bien, puisque ça se passe à une échelle si fine, si la plante est morte et réduite à l'état de poudre, on garde ses structures moléculaires et on garde l'efficacité de séquestration des métaux. Alors ça a tout changé, parce que c'est devenu quelque chose qui était naturel, c'est devenu quelque chose qui peut être régi par les lois de la physico-chimie, de l'adsorption. Donc c'est calculable, c'est robuste, c'est maîtrisable. On peut construire des procédés industriels à partir d'une poudre végétale qui devient une poudre dépolluante. Dans deux systèmes, Ce sont des filtres végétaux qu'on peut utiliser dans des réacteurs de chimie, ce qu'on appelle les batchs. On ajoute de la poudre dans un réacteur de chimie. Quand la réaction est finie, la poudre va séquestrer les métaux. Ou alors, mode continu, mode colonne. Vous imaginez ici un site minier réel, près de mon laboratoire, près de Montpellier, qui est très pollué. On pompe l'eau, on le fait traverser donc cette eau à travers une colonne, où on a ici des poudres végétales de plantes qu'on a bien choisies. Cette poudre végétale, en quelques secondes, va retenir les métaux. Ici, par exemple, le fer. Et la deuxième poudre végétale, par exemple, le zinc. Donc, en plus, il y a une sélectivité de ces poudres végétales. Et si on a bien travaillé, qu'on est un bon chimiste, eh bien, a priori, l'eau qui sort de cette colonne est dépolluée, peut être rejetée dans l'environnement. Mais ce scénario, finalement, est montré être puissant et est assez généraliste, beaucoup plus que les plantes terrestres de tout à l'heure, qui sont limitées à quelques métaux. Ici, on peut séquestrer des métaux dits stratégiques, les platinoïdes, tels que par exemple le palladium, j'y reviendrai tout à l'heure, dont le contexte est indispensable en chimie, pas que la chimie, mais en particulier la chimie quand même, et puis les terres rares. On n'a pas beaucoup ni l'un ni l'autre dans les sols européens. Apprendre à les recycler avec efficacité a tout son sens. Des métaux dits primaires, que vous connaissez certainement mieux, manganèse, nickel, cuivre, zinc, fer, important de les récupérer aussi, non seulement parce qu'ils peuvent être toxiques à haute concentration, mais aussi parce qu'un certain nombre d'entre eux sont quand même en voie de raréfaction. Il est important donc de réussir à les récupérer. Et puis bien sûr, les métaux dits toxiques, c'est sans appel, arsenic, cobalt, plomb, cadmium. Donc, pour des raisons sanitaires, il est évident que savoir les récupérer dans une eau polluée est essentiel. Donc, ces poudres végétales sont extrêmement performantes et puissantes. Vous voyez ici des exemples de ce qu'on a fait, parce qu'on a voulu montrer leur faisabilité à l'état réel. Eh bien, on a conçu, par exemple ici, une station de traitement d'eau minière contaminée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en zinc et en fer, avec deux étages de colonnes remplies de poudres végétales bien choisies. Un premier étage qui va quand même capter du fer à haute concentration dans un effluent avec un gros débit, 13 mètres cubes à l'heure, et puis l'étage inférieur qui va séquestrer le zinc. Pourquoi essayer d'avoir une sélectivité? On se projette tout de suite dans la valorisation. Valorisation de ces biomasses. C'est un peu comme à la maison, on fait un effort pour trier ses déchets, pour se donner une chance de les valoriser. Là, c'est pareil. Poudre végétale riche en fer, ça va être utile dans certaines applications. Riche en zinc, il y aura un autre usage. On pourra la valoriser dans d'autres procédés. Donc, tout de suite, essayer d'avoir la sélectivité. Mais on a aussi construit ce qu'on appelle, nous, un pilote mobile, avec, vous voyez, des colonnes métalliques ici, pour montrer la faisabilité de dépollution dans des scénarios assez compliqués. Et en région Occitanie, ancienne région minière, y a de quoi faire. Là, on était côté Occitanie-Est, avec d'anciennes mines de zinc qui ont bien pollué certaines communes. Et là, on est côté ouest, plutôt côté Carcassonne, où on a le triste privilège d'avoir l'ancienne mine la plus productive en arsenic, voilà, qui a alimenté un certain nombre de bombes lors de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, c'est 6 millions de tonnes de déchets arseniques à ciel ouvert. L'arsenic est très soluble dans l'eau. J'assure que quand il pleut, les rivières donc sont largement polluées. Et donc on a pu montrer que ce système de poudre végétale était capable de capter avec efficacité l'arsenic de ces rivières. Donc oui, ces biomasses végétales sont extrêmement performantes. Alors bien sûr, dans le cas de l'arsenic, il n'y aura pas de valorisation. On se l'interdit, la réglementation européenne l'interdit, et tant mieux, il faut arrêter d'utiliser l'arsenic. En revanche, quand on peut retenir le fer ou le zinc, là il y a un potentiel de valorisation extrêmement intéressant. À quoi tout ça sert? Eh bien, là encore, on a revu que ces poudres végétales, notamment gorgées de zinc, de fer, pouvaient être de très bons catalyseurs acides, manganèse, faire de très belles réactions d'oxydation, de très belles réactions de réduction, mais surtout, la capacité à séquestrer le palladium nous a permis de revisiter une nouvelle famille de réactions, ce qu'on appelle réaction de couplage croisé, catalyse du palladium, c'est le prix Nobel de 2010, une révolution dans le domaine de la catalyse qui permet de faire des réactions difficile par de très jolis procédés catalyseurs au palladium. Petit problème quand même aujourd'hui, il y a eu un tel engouement scientifique autour de la catalyse au palladium, on s'est tous excités à faire des catalyseurs complexes, avec des ligands énormes et très compliqués, plein d'additifs dans les procédés qui rendent ces catalyseurs difficilement recyclables. Aujourd'hui, la leçon est très dure. Pourquoi ? Le pays producteur principal de palladium, c'est la Russie. On a dit beaucoup de choses. Eh bien, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les coûts augmentent considérablement. Alors, qu'est-ce qu'apportent ces poudres végétales gorgées de palladium par rapport aux catalyseurs conventionnels ? Eh bien, tout est résumé sur cette photo. Cette photo, c'est du microscope à balayage. Vous voyez ces petites taches blanches ici ? Ce sont des nanoparticules de palladium, toutes petites, entre 2 à 4 nanomètres. Un peu le rêve pour le chimiste qui se dit « je vais avoir un super catalyseur au palladium, très actif ». En général, quand on a un catalyseur avec des particules aussi petites en chimie, en fait, on déchante assez vite parce que ces nanoparticules ont une mauvaise tendance, c'est à s'agréger. Et c'est un vrai problème parce que tout ce qui va être au centre de l'agrégat va être inaccessible aux molécules organiques qu'on veut transformer. Donc il faut mettre beaucoup de palladium. Aujourd'hui, il coûte extrêmement cher, donc ce n'est pas possible. Enfin, c'est vraiment un problème. Donc on a tendance à ajouter des additifs pour casser ces agrégats. Additifs, ligands, la note est lourde en termes d'empreinte environnementale et, comme je vous l'ai dit, complexifie le recyclage du palladium. Eh bien là, c'est très différent. Ces petites nanoparticules de palladium sont très stables. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dispersées sur ce qui est en gris. Et le gris, bah, c'est la matrice minérale de la plante. Vous savez, ces éléments minéraux utiles à la plante, le magnésium, le calcium, le potassium, le sodium, eh bien, ils permettent de stabiliser ces nanoparticules qui ne s'agrègent pas. Du coup, on a des nanoparticules stables qu'on peut utiliser avec des quantités très faibles de palladium parce que tous les centres palladiers sont actifs et permettent d'apporter l'énergie qu'on attend d'eux. Ils permettent de construire ces molécules complexes. Alors là encore, quelle est l'utilité actuelle de ces travaux de recherche ? Eh bien aujourd'hui, ces travaux de recherche, en fait, sont développés au niveau industriel dans deux contextes différents. Le premier, que j'expliquais, qu'on fait maintenant en grandeur réelle, c'est tout simplement recycler des métaux, en particulier ceux que vous voyez en rouge ici, qui sont considérés comme eh bien, des métaux en situation critique au niveau des ressources mondiales identifiées, bien sûr. On parle de l'extraction des métaux en milieu sous-marin, c'est un autre sujet, même si l'actualité d'hier, en particulier du choix de la Norvège de retarder cette exploitation, certainement une très bonne nouvelle pour les écosystèmes marins, ceci étant, donc on est en train de travailler sur des effluents réels, des cas industriels avérés pour apprendre à recycler ces métaux qui sont en situation de pénurie. Et puis l'autre schéma, eh bien, c'est le palladium, si important. Pourquoi ? Parce que la catalyse au palladium est indispensable pour la construction de médicaments complexes, notamment dans le domaine du cancer, où donc, on ne sait pas construire ces molécules autrement que par une catalyse au palladium. Et je vous l'ai expliqué, le contexte géopolitique du palladium est extrêmement délicat, le cours du palladium augmente considérablement, il est plus cher que l'or aujourd'hui. Ça peut être pire. Le producteur principal cité tout à l'heure peut arrêter éventuellement l'alimentation donc en Europe de la ressource palladier. Donc là encore, indispensable de travailler sur le recyclage des effluents industriels de l'industrie pharmaceutique et c'est aujourd'hui le débouché vers lequel donc, on fournit beaucoup d'efforts, recycler les catalyseurs dans l'industrie pharmaceutique et créer ces fameux éco-palladiums pour apprendre à produire des médicaments au prix à l'aide de cette catalyse biosourcée. Si on fait un petit bilan, parce qu'on parle effectivement beaucoup de décarbonation en ce moment, eh bien, j'aimerais bien comparer quand même ce qu'est la catalyse classique à l'éco-catalyse. Ça permet de remettre les choses à leur place. Je vous propose une petite analyse de cycle de vie qualitative, hein, simple, qui compare les deux filières. La catalyse conventionnelle, classique pour produire les catalyseurs dont a besoin l'industrie chimique s'appuie aujourd'hui sur deux activités. La première, ben, c'est l'extraction en fait, des métaux dans les minerais. Ça veut dire quoi ? Bien sûr, un impact paysager notoire. Hein, je vous ai dit, la végétation ne reprend pas, les sols sont trop dégradés. Donc une érosion énorme de ces sols qui va donc fortement entraîner le lessivage des sols à chaque fois qu'il pleut, la pollution des systèmes aquatiques. Érosion, perte de biodiversité, bien sûr un impact environnemental qui est aujourd'hui difficilement acceptable. Mais c'est pas fini, il faut pas l'oublier. Quand on extrait de minerai, on n'a pas encore notre catalyseur pour la chimie. Il faut qu'ils subissent des opérations métallurgiques qui, elles, ne valent pas forcément mieux que l'extraction minière. Les procédés sont très lourds. L'hydrométallurgie utilise de l'acide furique concentré en grosse quantité. La neutralisation de ces effluents est complexe. Et c'est tout ceci qu'il faut faire pour produire donc un catalyseur métallique et construire nos molécules d'intérêt. L'éco-catalyse s'inscrit dans une démarche bien différente, souvenez-vous. On commence par dépolluer un effluent industriel et pour ceci, eh bien, on va chercher des plantes aquatiques qui vont séquestrer dans leurs racines, même si c'est sous forme de poudre, les métaux. Mais quelles sont ces plantes aquatiques? D'où viennent-elles? On n'en a pas trop parlé. Où va-t-on les choisir? Eh bien, je vous ai un petit peu parlé en début de présentation de ces plantes exotiques envahissantes. La plupart des plantes aquatiques exotiques envahissantes ont pile la bonne structure chimique au niveau racinaire pour séquestrer ces métaux. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle elles sont envahissantes, pour en revenir dans la discussion tout à l'heure si vous le souhaitez. Et donc, on a une ressource végétale abondante. Ces plantes envahissantes qui envahissent les milieux aquatiques sont récoltées massivement pour former ces poudres végétales dépolluantes. Et donc, on va préserver la biodiversité de ces milieux aquatiques en les récoltant massivement, mais aussi dépolluer l'eau. Donc, on fait coup double pour préserver la ressource en eau. On transforme ces poudres végétales qu'ont séquestrées les métaux en éco-catalyseurs pour les mettre en œuvre dans les procédés de chimie de synthèse en essayant d'avoir des procédés sobres qui répondent bien sûr aux principes de la chimie verte et bien sûr en fournissant, comme j'ai expliqué, des catalyseurs recyclables le plus longtemps possible. Cette solution est aujourd'hui industrialisée par la société BioInspire. Et vous le voyez, finalement, grâce à ces ressources végétales et leur capacité à séquestrer les métaux, on arrive à s'inscrire dans une véritable volonté de répondre aux principaux objectifs du développement durable. Donc les végétaux sont une ressource absolument extraordinaire pour progresser à la fois sur la transition énergétique, mais aussi écologique. Et pour finir, deuxième aspect, donc les plantes envahissantes, je viens juste d'en parler avec le système aquatique, mais elles n'envahissent pas que l'eau. Elles envahissent aussi le milieu terrestre et en particulier les zones humides. Et c'est terrible à l'heure actuelle. Envahir les zones humides, ça veut dire quoi? Les zones humides sont des zones tampons qui régulent les extrêmes climatiques, qui absorbent l'excédent de chaleur l'été, mais l'excédent d'eau en période d'inondation. Donc ça parle beaucoup en ce moment. Or, pourtant, ces plantes envahissantes se font un plaisir de proliférer sur les zones humides européennes. Notamment, l'une d'entre elles, Fallopia japonica, vous connaissez peut-être son nom commun, parce qu'elle est très présente en France, la renouée du Japon. C'est pire que le bambou. Ça développe des rhizomes qui font 15 cm de diamètre. Ça prolifère extrêmement vite, rien ne les arrête. Cette renouée du Japon, qui est un véritable fléau, qui est considérée comme une des espèces les plus envahissantes au monde, mais en particulier chez nous, à nos portes, pose beaucoup de problèmes et beaucoup d'efforts sont faits pour essayer de contrôler sa prolifération. Je dis bien contrôler, parce qu'on sait qu'elle est définitivement installée. On pense qu'on n'éradiquera plus, c'est terminé. C'est un gros problème qui engendre parfois des moyens qui sont peu séduisants. Il y en a qui ont essayé le glyphosate, bien sûr, irrésistible, sans se préoccuper de l'état de santé de l'écosystème après traitement. D'autres essaient d'extraire les racines, mais il faut extraire avec des bulldozers, ça détruit tout. Et vous laissez un petit centimètre de racine, il y a une reprise assurée. C'est décourageant, c'est ruineux. Alors, on s'est projeté dans quelque chose qui paraît plus modeste, mais qui est tenable sur la durée, c'est de faucher les parties aériennes, selon des protocoles écologiques que l'on étudie, pour épuiser la plante, épuiser ses ressources dans ses racines. On finit par y arriver. Il faut tenir bon, il faut tenir dans la durée. Alors, ça pose deux problèmes. Récolte massive et répétée, ça génère des quantités de biomasse extraordinaires, énormes. Ce ne sont pas des déchets communs, on ne peut pas aller les mettre en décharge, c'est trop dangereux, ça repousse tout seul. C'est un problème, puis il faut tenir dans la durée. Tout ça, ça coûte cher, parce qu'il faut de la main-d'œuvre, surtout qu'elles sont réglementées, on ne peut pas récolter ça comme on veut. Donc ça se fait à la main et au courage, donc imaginez le nombre de personnes qui y travaillent. Donc, là encore, le nerf de la guerre, c'est valoriser ces biomasses. Alors, comment les valoriser? Elles n'ont rien dépollué, Elles ne sont pas riches en métaux de transition particuliers. À force d'essayer de les comprendre, de comprendre un petit peu pourquoi elles sont envahissantes, on a vu qu'elles avaient des avantages physiologiques sur les autres. Notamment, une richesse minérale absolument extraordinaire. Deux fois plus de magnésium, de potassium que la plupart des plantes qu'on connaît. Ça nous a beaucoup inspirés. On s'est dit, là encore, voilà une possibilité de valoriser ces biomasses en éco-catalyseurs. Et oui, magnésium, ça parle tout de suite aux chimistes. On peut en faire plein de choses. En particulier, parce qu'il nous manquait des catalyseurs basiques. Aller remplacer la potasse, la soude, si corrosive, et qui sont produites par des procédés qui sont assez problématiques. Eh bien, voilà aujourd'hui ce que nous faisons. Nous faisons des récoltes massives, et quand je dis massives, l'été dernier, c'était 17 tonnes, et on a envie de faire plus l'été prochain. Donc, on se structure, on s'organise pour récolter massivement cette renouée du Japon, la transformer en éco-catalyseur et montrer tout son potentiel en chimie pour construire, là encore, des molécules d'intérêt. Eh bien, aujourd'hui, voilà, on revisite toute la catalyse basique qui a été très vite, plus vite que ce qu'on attendait, et qui déjà est déjà développée industriellement par la société BioInspire. Pour faire quoi ? Eh bien, des molécules utiles pour notre bien-être. Et on s'est mis un défi supplémentaire. Utiliser ces éco-catalyseurs qui viennent de plantes envahissantes, comme la renouée du Japon, mais dans des procédés qui n'utiliseraient aucun intrant pétrosourcé. Faire avec du tout naturel. On transforme des ressources végétales, donc des biomasses, qui sont abondantes, par ces catalyseurs qui viennent de plantes trop abondantes, pour faire des molécules utiles et qui sont labellisées dès maintenant par le label bio défini par EcoCert, le label Cosmos. Donc on arrive à faire des molécules assez complexes uniquement avec des ressources végétales, de la biomasse. Voilà le défi et ce que ça représente aujourd'hui, une soixantaine de molécules qui sont mises sur le marché. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que la combinaison entre l'écologie et la chimie, la valorisation de la biomasse, pouvait être extrêmement profitable, à double titre, pour résoudre des problèmes environnementaux, comme la pollution des sols, de l'eau, le développement des plantes envahissantes, puisqu'à chaque fois, ça génère des biomasses extrêmement riches en éléments minéraux et très valorisables comme éco-catalyseurs pour construire les molécules organiques dont on a besoin. Voilà, si ce travail vous a intéressé, vous pourrez le retrouver plus en détail dans le livre sur l'éco-catalyse que va faire paraître l'ARSC. Merci pour votre écoute.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.